Okapi Action, à la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Okapi Action, pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Okapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.
Il y a un exemplaire, un original, qui va rester chez le notaire et qui doit être signé, disons, la personne qui fait le testament doit le signer. Le testament authentique ne peut être consulté qu'après la mort de la personne qui l'a rédigé, le testament oral.
À la une, en ce jour, également la question du testament. Ce document écrit ou acte juridique qui octroie à une personne l'occasion de décider de ce qu'il adviendra de ses biens après son décès. Mais souvent, plus d'une personne ne sait pas comment l'écrire et ne connaît pas son importance. Dans certains cas, les dernières volontés du testateur ne sont pas respectées, d'où source de conflits d'héritage. Que dit exactement la loi congolaise sur le non-respect du testament ? Tout à l'heure, vous aurez un invité dans ce studio, Maître Dominique Camandou, qui viendra répondre à toutes vos questions sur le testament. N'hésitez pas déjà à envoyer vos SMS, toujours au même numéro, 081 070 20 50. Et bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Allez, ne soyez pas déçus, parce que tout à l'heure, vous aurez beaucoup, beaucoup d'informations à travers Okapi Action. Retenez qu'à la mise en onde, il y a Héritier Sidiakala, à la réalisation J.R. Lungembo et au micro, Nicole Ngaka. On va donc démarrer avec ce premier sujet concernant justement le problème du testament. Pourquoi beaucoup d'entre vous hésitent aujourd'hui à faire un testament ? C'est vrai, c'est vrai. Il y a beaucoup à dire là-dessus, hein, mais je sais que vous serez servi avec notre invité. Donc dès maintenant, envoyez déjà vos SMS. Mais en attendant, nous allons démarrer cette émission. Et puisqu'il pleut aujourd'hui à Kinshasa, peut-être aussi ailleurs au Congo, pourquoi ne pas vous rêver avec une belle sélection musicale ? Bien sûr, sélection choisie par J.R. Lungembo.
Eden Saboga na Pointe Noire, Tanela Lorenzo, Didi Lundeyete, Brice Mpangi, Vivi Kili Bebe Munanga, Adele Mbouyi.
Lora ya bote kana longala mo, nantela mino na yo, nankingo zomini, nara kujira kwa.
Et don Piero.
Papa Rogier, la Bidisson, la Bengiola, téléphone, Oriambi, oui, Yoka Telinga, téléphone, c'est vrai que je suis allé, c'est un petit jimbo,
On doute que Michel. L'eau de Goma Kosi. Parti au monde, parti au Mouekaton, on a Jules Laurent. Mais par exemple, on va répondre à mon côté. François Babadi. Didier Niamalem. Even Jolie Patrick Mbubi, Dina Yowine, Jamundu Kamba, Chef Nandjunda, Divostor, Bézitina, Andy Kisenda, Jerito Folo, Kairou Diallo, Papa Nanatide.
Sur 103,5.
Et merci de nous suivre partout en République démocratique du Congo. Vous savez que le testament est un document écrit ou un acte juridique en vertu duquel une personne décide de ce qu'il adviendra de ses biens après son décès. Mais souvent, plus d'une personne ne sait comment l'écrire et ne connaît en plus pas son importance. Et dans certains cas, les dernières volontés du testateur ne sont pas respectées. Pourquoi beaucoup d'entre vous hésitent ou évitent carrément de faire un testament avant la mort ? Je sais que beaucoup nous disent que c'est une question de superstition, mais est-ce que c'est vrai pour tout le monde? Peut-être que Julie Laure nous en dira un peu plus à ce sujet, mais déjà, on sait qu'il y a des problèmes de conflit parce que, soi-disant, la personne décédée n'a pas fait de testament. Et dans bien des cas, la plupart des gens ne font pas confiance à la loi, au droit congolais. Et pourtant, la loi congolaise existe, hein, n'est-ce pas? Allez, réagissez déjà avec vos SMS au 081 070 20 50 ou écrivez-nous à action@radiocapi.net. Et déjà, ici, je me retrouve avec une dizaine de SMS. C'est bien. Continuez à le faire parce que Maître Dominique Kamwandu de l'ONG Avocats Sans Frontières est déjà là pour répondre à toutes vos questions. Mais pour l'instant, faisons d'abord le point avec Jolie Laure Mbalevoto. Jolie, bonjour.
Bonjour, Nicole.
Alors, ça va?
Oui, ça va très bien.
Vous avez passé un bon week-end?
Oui, très bon.
Allez, avec vous, on aborde cette question concernant le testament. Je crois qu'il est bon pour commencer de définir un peu aux auditeurs ce qu'est exactement le testament.
Oui, en petit mot, je peux dire que le testament est un acte personnel par lequel une personne peut disposer de son patrimoine. Donc, dans le testament, on peut déterminer à qui va appartenir ses biens, qui seront les héritiers et comment cela va se passer concrètement.
Alors aujourd'hui, une personne, si elle sait que bon, d'ici là, il peut arriver qu'elle meure puisqu'elle ne se sent pas bien et tout, elle peut demander à un de ses fils aînés de lui établir carrément un testament ou encore à celui qui chérit le plus, hein, le fils bien-aimé, de l'aider, ou même à son ami de l'aider à faire un testament. Qui peut faire exactement le testament?
Oui, la personne qui peut faire un testament, c'est quelqu'un qui peut être majeur, c'est lui qui est majeur. Et puis, selon la loi congolaise, on dit toute personne majeure, saine d'esprit, peut faire son testament ou poser des actes juridiques.
Donc, c'est pas nécessairement un homme de la loi.
Il faut être majeur pour faire son testament.
On aura des états avec Maître Dominique. Mais quelles sont, en attendant, les différentes formes de testament qui existent?
En fait, notre code congolais reconnaît trois sortes de testaments. Le premier, c'est le testament holographe. Il y a le testament authentique, le testament oral. Et le testament holographe, je peux dire un petit mot, par exemple, il doit être entièrement écrit de la main du testateur, donc celui qui l'écrit, sur papier libre, daté et signé. Et cela, pour éviter les risques de perte ou de vol, on peut le déposer chez un notaire. Et les deux autres testaments, donc authentique et oral, je laisse à Madame Mushinga de l'expliquer.
Testament authentique, hein, c'est lui qui est dressé devant un officier de l'état civil ou bien devant le notaire. À ce moment-là, quand on le rédige, il y a un exemplaire, un original, qui va rester chez le notaire et qui doit être signé, disons, la personne qui fait le testament doit le signer. Le testament authentique ne peut être consulté qu'après la mort de la personne qui l'a rédigé. Le testament oral, ce testament-là, nous disons que c'est un testament, comme le mot le dit, c'est un testament qui est fait verbalement. Souvent, c'est quand la personne sent la mort venir et qu'il est malade ou qu'il est sous les lits de l'hôpital. Alors, à ce moment-là, il n'a pas la possibilité de pouvoir faire un testament écrit. La loi lui permet à ce qu'il puisse faire, elle puisse faire un testament verbal, mais seulement à condition de faire ce testament devant deux témoins, de manière verbale.
Voilà des explications détaillées de Madame Mushinga, mais bon, j'imagine que beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas totalement bien compris hein, et saisi ce qu'elle voulait dire. Ne vous en faites pas, Maître Dominique est déjà là, il aura à réexpliquer ce que Madame Mushinga nous a donné comme information tout à l'heure. Je dis alors, on va évoluer sur la question parce que nous savons que dans un cas général, on ne connaît pas les légataires d'un testament. Qui sont en fait les légataires d'un testament?
Oui, comme vous le savez, en principe, dans le code congolais de la famille. Notre code détermine plusieurs catégories de héritiers. Dans la première catégorie, nous avons les enfants du défunt nés dans le mariage, excusez-moi, et c'est né hors mariage, mais reconnu par leur père avant sa mort, ainsi que les enfants qu'il a adoptés, bien sûr. Après vient la deuxième catégorie, le conjoint survivant des parents et les frères du défunt. Mais deux fois, ce principe n'est pas respecté. Cela dépend d'une famille aussi à une autre. Et c'est le point de vue aussi de cet homme. Écoutez-le.
On prend d'abord les fils aînés de la première femme. C'est ça une des conditions. Mais si ce fils aîné ne remplit pas les conditions nécessaires pour diriger la famille, on peut l'écarter et prendre un autre qui est capable de diriger la famille et à qui on a confiance. Alors, on prend les cadets du papa. Le papa peut avoir 5 ou 6 femmes, donc celui qui est le dernier de tous ces derniers enfants.
Et voilà un témoignage hein, précis, hein, quelqu'un qui s'y connaît, je crois, hein, parce qu'il nous a donné quand même des détails.
Comment ça se passe dans sa famille?
Dans sa famille, mais ce n'est pas généralement ça, non, hein, je crois. Il ne faut pas le mettre à tous les cas. Mais est-ce qu'on peut révoquer son testament ou le changer?
Oui, bien sûr, on peut le révoquer aussi souvent qu'on le veut, parce qu'il suffit de faire un nouveau testament, alors ce dernier annule automatiquement le précédent. Jusqu'au décès, un testament peut être révoqué en tout ou en partie. Mais on devait aussi savoir que le divorce ou la séparation entraîne la révocation automatique des legs entre époux. Et le testament peut être révoqué aussi dans le cas où les héritiers sont préjudiciés. Madame Mushinga explique.
C'est-à-dire quand les personnes, les héritiers qui sont prévus par la loi sont préjudiciés, ces personnes peuvent attaquer ce testament après la mort si elles découvraient qu'elles ont été préjudiciées et qu'on a eu à empiéter sur leurs droits. Mais la personne aussi qui a établi le testament, de son vivant, elle peut se rendre compte qu'il y a des erreurs qu'elle a commises, elle peut se rendre compte qu'il y a des personnes qui ne méritent plus d'être ses héritiers, il peut toujours révoquer et rentrer chez le même officier de l'état civil pour aller annuler et refaire un autre testament. Il peut aussi se faire que le patrimoine est devenu, s'est élevé en importance, c'est-à-dire la personne a acquis plusieurs biens par rapport à l'époque où il avait fait le testament. Donc il peut toujours révoquer ce testament pour reprendre un autre.
Donc, quand on veut changer le testament, on parle de révocation. Révocation, hein, d'un testament, si je ne me trompe pas.
Oui, c'est ça.
Ça fait bizarre, hein. Allez, on évolue, parce que d'ici là, Maître Dominique va répondre aux questions des auditeurs qui ne cessent d'arriver. Quelle est l'importance, finalement, de faire un testament?
Pour moi, je dirais que le testament est très important parce que on sait ici qu'à Kinshasa, les problèmes de succession sont légion. Et dans bien des cas, lorsque l'un des parents décède, précisément le père, bien sûr, la question de l'héritage est souvent source de conflit entre les enfants et la famille.
Surtout s'il a eu plusieurs enfants.
Oui, surtout quand ce dernier, oui, comme vous l'avez dit, a eu plusieurs épouses de son vivant qui lui ont donné chacune une progéniture. Mmh. Et comment, maintenant, la question, c'est de savoir comment envisager alors la question du partage des biens après le décès du père. Partage, on voit, incluant des biens meubles, immeubles. Souvent, les enfants nés d'un premier mariage laissent leurs frères nés du second mariage aussi. Mais on remarque que l'important, n'importe qui peut faire n'importe quoi avec les biens laissés par le défunt. Alors que si la personne avait, de son vivant, fait son testament, déterminé ses propres biens, ceux de sa femme, de ses enfants, qui va prendre quoi et comment, je pense qu'il n'y aurait pas de problème.
Mais il faut dire aussi que ici au Congo, hein,
on n'a pas cette culture. Ça,
on n'a pas cette culture parce que bon, il faut dire que la tradition africaine, elle est superstitieuse. Hein. Beaucoup se disent, bon, si je fais un testament aujourd'hui, donc demain on va me manger. On fait trop recours à la sorcellerie ici. Alors bon, est-ce que c'est vrai ça que demain, qu'aujourd'hui si vous faites un testament, demain autrement dit demain vous serez mort.
Je ne pense pas, c'est juste question d'organiser sa vie.
Allez, rien.
Préparer aussi celle de ses enfants.
Tout à fait. J'espère que vous serez nombreux plutôt à intervenir là-dessus avec vos SMS. C'est bien de le faire avant que notre invité ne puisse partir, parce qu'après, ça sera trop tard. Jolie Laure Malivoto, merci beaucoup.
Je vous en prie. Nicolas.
Allez, à la prochaine.
À la prochaine.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle vie.
Nombreux parmi vous, vous ne cessez de réagir et c'est bien de le faire parce que ce n'est pas tous les jours qu'on aborde une question importante. S'agissant par exemple du testament, ce n'est pas tous les jours qu'on en parle. Vos SMS sont donc les bienvenus, je le disais tout à l'heure. Continuez à agir et je vais commencer par lire le premier SMS qui nous est arrivé dans ce studio. Charles Yalé de Béni nous dit « Si on attribue la richesse du défunt à un fils aîné et que ce dernier garde le monopole de tous les biens, que prévoit la loi en cas de plainte par ses frères ?» Charles Loyalé, merci d'avoir réagi, mais vous n'avez pas été suffisamment précis. C'est le fils aîné, né d'une même mère, autrement dit, c'est par le même couple, c'est-à-dire papa-maman, ou bien il y a eu plusieurs mamans, et là c'est l'aîné de la première femme qui se retrouve ainsi, comme qui dirait, héritier. Est-ce que c'est ça? Soyez précis dans vos réactions, hein, cher auditeur. Madame, malgré la loi, les testaments sont foulés aux pieds, d'où des procès. Que faire? Dieudonné Ehanga a réagi donc depuis Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, précisément dans le quartier Matongé. Hein. On va répondre à votre question, Dieudonné, dans un instant, parce que Maître Dominique est déjà là. Et je crois d'ailleurs que je vais commencer par votre question. Maître Dominique, bonjour.
Bonjour, Madame Nicole.
Vous avez suivi quelques réactions, notamment la question de Dieudonné Ehanga, qui dit « Malgré la loi, les testaments sont foulés aux pieds, d'où des procès. » Vous êtes un homme de la loi. Est-ce que c'est vrai ce que nous dit Dieudonné Ehanga?
Effectivement, on rencontre dans beaucoup de juridictions des contestations de testaments ou des problèmes de succession entre héritiers ou entre héritiers et même d'autres personnes, membres de la famille, qui ne sont pas héritiers du tout. Effectivement, ce sont des problèmes que l'on rencontre, mais la justice est là pour réguler la vie sociale et pour régler les conflits dans la société. Donc, ce qu'il faut faire en pareil cas, c'est de prendre un conseil utile et de s'adresser à la justice pour trouver une solution.
Mais lui, il nous a dit que les testaments sont foulés aux pieds, peut-être même aux pieds de la justice.
Je ne pense pas. Le rôle de la justice, c'est de régler les conflits conformément à la loi. Ce que la loi dit, et le rôle de la justice, c'est de dire le droit. Quand il y a une contestation, la justice va donner la lumière et donner une force juridique à la décision. Et si les personnes n'aiment pas obtempérer ou refusent de suivre, on peut requérir à la force publique pour faire respecter la loi.
Mmh. Tout à l'heure, on a eu à faire le pont avec Jolie Laure. Là-dessus, vous nous avez suivi 5 sur 5. Mais qui peut faire exactement le testament? Qui peut écrire le testament aujourd'hui au Congo?
Merci beaucoup, madame. La loi dit que le testament est un acte personnel. Donc, c'est la personne concernée elle-même. Donc, le testateur qui veut déterminer les dispositions de la manière dont les choses doivent se passer après son décès. Donc, le testament doit être établi par la personne elle-même, et cette personne doit être majeure et doit avoir toutes ses facultés mentales.
Voilà, on revient sur la personne majeure, parce que tout à l'heure, je lui ai précisé cela également. Est-ce nécessairement un homme de la loi, ou bien la personne majeure peut-être un des fils de la personne qui va léguer son héritage?
Non, ce n'est pas l'homme de la loi, ou les notaires, ou l'officier de l'état civil qui rédige ou qui fait les testaments. Mmh. Les testaments, c'est la volonté du testateur lui-même. C'est-à-dire la personne concernée qui veut disposer de ses biens, qui veut déterminer la manière dont ses biens seront disposés après sa mort.
Donc n'importe qui peut le faire.
N'importe qui peut le faire. L'intervention de l'officier de l'état civil ou du notaire vient pour authentifier sa volonté.
Mais il y a des risques, parce que si aujourd'hui, par exemple, vous avez beaucoup de biens, hein, je donne un exemple, un monsieur qui a beaucoup de biens et tout, et qui a énormément confiance à un de ses fils, pas nécessairement un fils aîné, mais un de ses fils qui est majeur, et c'est lui qui écrit le testament, qui établit en fait le testament devant son père. Mais il se fait que, bon, après la mort de son père, il change carrément ce que, parce qu'il connaît le contenu de ce testament, il change ce que son père lui avait dit, de son vivant, et il écrit ce que lui veut.
Effectivement, là, nous tombons dans une autre hypothèse où la personne n'est pas en mesure d'écrire et dicte ses volontés à une autre personne, et c'est une autre personne qui écrit à sa place.
Oui, mais vous n'avez pas bien saisi la question.
Ouais.
La personne a bien écrit ce que celui qui voulait céder son, son bien, autrement dit, la personne décédée, voulait. Donc, il a écrit les volontés de cette personne-là.
Voilà.
Mais il se fait que, comme il connaît ses volontés, et que bon, quelque part, il est aussi mal intentionné. Il n'est pas un de ses fils aînés, il est un des fils que la personne chérissait vraiment, mais qui malheureusement était hypocrite, et qui à la mort de cette personne, change carrément le contenu du testament, en imitant sa signature, bien sûr.
Voilà, effectivement, la personne qui commet un tel acte, d'abord, est en train de commettre une infraction de faux en écriture. On peut le poursuivre et le sanctionner sur le plan pénal.
Comment savoir?
De un. De deux, la loi donne une garantie ou des garde-fous. C'est-à-dire, lorsque le testament n'a pas été rédigé par le testateur lui-même, la loi exige que pour qu'un tel testament puisse être valable, on doit l'amener chez l'officier de l'état civil ou chez le notaire, qui doit le légaliser en présence du testateur. C'est-à-dire, tu dis que tes volontés à la personne qui écrit, et après, tu amènes ce testament toi-même devant l'officier de l'état civil. L'officier de l'état civil te donne lecture. Et tu confirmes que telle est ma volonté, et à ce moment-là, il les légalise. Si ça n'a pas été fait ainsi, ça ne peut pas être pris en considération.
Voilà une précision importante, Maître Dominique. Donc, non seulement vous établissez le testament auprès d'une personne qui est majeure, mais après, vous allez avec le même testament légaliser ça. Où ça exactement?
On peut aller chez le notaire ou chez l'officier de l'état civil.
Donc à la commune. Hein?
Voilà, effectivement.
Voilà,
et on les légalise en votre présence après vous avoir donné lecture.
Ok, ça c'est important de le dire parce que dans bien des temps on n'est pas informé. Alors je vais lire quelques questions qui nous viennent des auditeurs encore une fois. Par exemple de celui-ci qui nous écrit depuis Colosi dans le Katanga, il s'appelle Louis Lou. Louis Lou nous dit, la famille et enfants du premier, donc j'imagine du premier, de la première femme, vont-ils considérer le testament fait dans l'envoûtement maléfique? Ça, c'est Elias Tchadamba qui réagit, je précise, hein, depuis Colosi à Lulu dans le Katanga.
Bon, il est question d'éprouver qu'il y a eu envoûtement maléfique. Ça, c'est aussi une question qui fait couler autant d'encre et de salive. C'est le même problème qui se pose sur la pénalisation de la sorcellerie en République démocratique du Congo. Donc, c'est une question qui ne peut pas être prouvée sur le plan de droit et c'est difficile légalement de rencontrer telle question. Mais le problème, c'est que lorsque le testament a été établi en bonne et due forme et conformément à la loi, on doit le respecter si il n'a pas prévu des choses qui sont interdites par la loi.
Je crois comprendre la question de cet auditeur, parce que quand il parle d'envoûtement maléfique, lui, il est, ce sont les enfants issus du premier lit, autrement dit de la première épouse, hein, de la personne décédée. Et je pense que au décès de leur père, celui-ci a légué ses biens aux enfants de la deuxième et peut-être la troisième épouse.
Ah là, ça.
C'est pourquoi on parle d'envoûtement. Ouais, parce que normalement, ça aurait dû être les enfants de la première épouse.
Pas nécessairement les enfants de la première épouse. C'est pour rencontrer aussi la première question de notre auditeur où beaucoup de gens pensent que c'est le fils aîné qui est l'héritier, qui doit avoir plus de droits que les autres. Non, tous les héritiers ont les mêmes droits. Et les enfants de la première épouse, et les enfants de la seconde épouse, s'il y en a eu, c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment des enfants nés hors mariage, dès lors que ces derniers ont été reconnus du vivant de leur père, ils sont héritiers et ont tous les droits égaux. Ça, on doit bien le savoir. Et lorsque dans un testament, on a légué certains biens à une catégorie d'enfants et pas à d'autres, les autres ont le droit de demander la révocation de ces testaments-là. Ces testaments-là ne rencontrent pas la volonté de la loi.
Ok, donc si certains enfants sont discriminés, d'autres ont le droit de protester?
Effectivement.
Comment?
Non, ils peuvent saisir la justice en révocation des testaments. Dans ce moment-là, le tribunal va statuer et dire que les testaments ne rencontrent pas les conditions prévues par la loi. Parce que dans la définition légale, on dit que le testament est un acte personnel d'une personne par lequel il détermine son patrimoine, la manière dont ce dernier sera réparti, il détermine ses héritiers. Et la loi ajoute les dispositions des dernières volontés que la loi n'interdit pas. Mmh. Donc si la personne prévoit dans ton testament des choses que la loi interdit, c'est chose-là où ce testament-là ne peut pas être exécuté. C'est le cas, par exemple, parce que la loi place tous les héritiers sur le même pied d'égalité. Dès que vous faites la différence, vous êtes en train de consacrer des choses que la loi interdit.
Tous les enfants sont pareils, il n'y a pas d'enfants qui sont privilégiés par rapport à d'autres.
Effectivement.
Mais pourquoi un testament? Ça, c'est un auditeur qui le demande. Hein. Pourquoi un testament? Quel est son vrai sens et qui peut le réaliser après la mort du testateur? Vous l'avez dit, hein, c'est un majeur, une personne majeure, mais par après, il faut aller le légaliser auprès du notaire ou encore aller carrément de la commune, hein, là où vous habitez, pour légaliser ce testament-là. Donc n'importe qui peut le faire à condition d'être majeur. Hein.
Non, le testament est fait par l'intéressé lui-même, le propriétaire des biens. Voilà.
Mais aidé par une personne majeure.
S'il n'arrive pas à écrire tout ça, il peut se faire assister d'une personne majeure ou en présence de deux témoins, comme la loi l'exige.
Donc il n'est pas obligé de recourir au service d'une autre personne?
Non. S'il sait écrire, il n'est pas obligé de recourir au service d'une personne.
Maître Dominique,
il l'écrit lui-même et les dates et les signes.
Je reviens encore une fois à ça parce que bon, il y a des cas supposés qu'une personne, bon, elle sait qu'elle a beaucoup d'enfants, elle a eu plusieurs femmes de son vivant et que d'ici là, elle va partir, elle va mourir. Bon, la personne fait son testament en cachette, ok? Et ne dit à personne, ne consulte même pas une personne majeure, n'est-ce pas? Notamment un de ses fils, mais va directement au niveau de la commune pour légaliser ce testament. Par après, où sera gardé le testament? Parce que, à supposer que la personne meurt, comment on saura que cette personne-là avait laissé un testament?
Ouais, c'est ça la difficulté. En principe, quand on fait un testament, on n'est pas obligé de le dire à tout le monde ou de le dire à quelqu'un ou de se faire assister d'une personne majeure. On peut établir son testament soi-même, l'amener chez le notaire ou chez l'officier de l'état civil pour le faire authentifier. En principe, on remplit dans les registres le numéro, la date, et on garde une copie de l'original chez l'officier de l'état civil ou chez le notaire, et l'intéressé rentre avec une copie. Il peut confier ça à une personne, il peut donner l'information à quelqu'un d'autre pour éviter qu'en cas de mort brusque, cela reste secret et qu'on le découvre peut-être en fouillant dans ses documents, pendant peut-être que certains de ses biens sont déjà dilapidés. Mais ce qui est évident, c'est que le plus souvent dans les familles, après le décès d'une personne, on va quand même fouiller ces histoires là où ils gardent ces documents importants, parce qu'on arrive toujours à découvrir où est-ce qu'ils gardaient les certificats d'enregistrement de la parcelle. Donc il ne peut pas ne pas
à condition que la famille ne soit pas chassée de la parcelle. Hein.
Effectivement.
Dans bien des cas, il y a des problèmes de conflit, surtout si la personne avait beaucoup de biens. Vous le savez, vous avez eu certainement des cas comme ça à résoudre au niveau de votre ONG, hein, Avocats sans frontières. La famille n'a même pas le temps de consulter les affaires du défunt. Automatiquement, elle est pratiquement priée de quitter les lieux, hein, par la famille du défunt.
Effectivement, la garantie en pareille circonstance, c'est que quand on a établi un certificat, un testament, on peut se confier à un ami, on peut se confier à un membre de la famille à qui on a vraiment confiance pour dire que non, j'ai fait mon testament, il est à tel endroit, et il y a une copie chez l'officier de l'état civil en cas de vérification ou de contestation.
D'autres questions nous arrivent au fur et à mesure dans ce studio. Le législateur, le législateur doit désigner un mandataire spécial parmi ses fils pour la gérance seulement. Merci beaucoup, hein. Ça c'est Silos Bantushi qui nous le dit depuis le Lubumbashi. Donc il précise finalement ce que vous venez de dire, si je comprends bien.
Bon, il parle du législateur.
Oui.
Non, dans le cas d'espèce, il ne s'agit pas du législateur. Le législateur, c'est l'organe qui édite la loi. Comme dans les circonstances actuelles de notre pays, non, le législateur, c'est le Parlement. Il veut peut-être parler du testateur qui peut désigner une personne qui va procéder la gestion.
Donc il a mal utilisé
à la gestion de la succession. C'est celui qu'on appelle les liquidateurs de la succession.
Mm-hmm.
Il peut désigner aussi une personne qui peut être de sa famille ou en dehors de la famille comme liquidateur de la succession.
Ok, je suis Georges à Essiro. Si une personne meurt brusquement, comment il peut faire un testament?
Bon, en cas de mort brusque, il n'y a pas de testament à faire. À ce moment-là, la situation de la succession sera réglée comme la loi le prévoit. Lorsqu'il n'y a pas de testament, on détermine qui peut hériter et qui peut avoir quoi.
Ça, c'est qui va décider de cela?
Non, ça, cela est déjà décidé par la loi. Lorsqu'une personne meurt sans laisser de testament, ses biens sont répartis aux catégories des héritiers. Dans la première catégorie, nous avons les enfants du défunt. Les enfants ont les 3/4. Et le 1/4 qui reste est réparti aux héritiers de la deuxième catégorie, c'est-à-dire le conjoint survivant, le frère et sœur et les pères et mères du défunt.
Mm-hmm.
Donc, dans la première catégorie, les 3/4 des biens sont répartis à tous les enfants en parts égales.
Okay.
Et dans les biens de la deuxième catégorie sont répartis en 3 parts égales. Le conjoint survivant prend une part, les frères et sœurs, quel que soit leur nombre, prend une part, et les pères et mères prennent aussi une part.
Mm-hmm. Billy Moriwa de Bukavu nous dit, peut-on écrire un testament même si on n'est pas marié et sans enfant?
Effectivement, le testament n'est pas réservé seulement aux personnes mariées. Toute personne majeure, capable, qui a des biens à léguer après sa mort, peut faire un testament.
Quand on n'a pas de bien, ça ne sert à rien.
On peut déterminer dans un testament la manière dont on veut que ce funérailles soit organisé, pas nécessairement pour les biens. Le testament détermine les dernières volontés d'une personne.
Mais ce n'est pas obligatoire.
Ce n'est pas obligatoire.
Surtout quand vous n'avez pas de bien. Vous savez, la plupart des gens ici sont locataires au Congo. Vous savez, il y a très peu de propriétaires. Il y a très peu de gens, je dirais, qui ont des moyens. Beaucoup vivent avec des petits moyens. Alors,
effectivement.
Ils ne font pas testament.
Bon, généralement, quand on parle de testament, on voit la disposition des biens après les décès, mais les testaments peuvent déterminer aussi bien d'autres choses.
Ok. Moïse Ouassoukoundi de Bénin nous dit, est-ce que ce que dit le testament est obligatoire? Autrement dit, ce qui est inclus dans son testament, est-ce obligatoire de l'exécuter? Je crois que c'est
en principe, dès lors que ce testament est fait conformément à la loi et n'a pas empiété sur certaines dispositions légales, ce testament a une force juridique probante et on doit les respecter. Parce que la loi dit... La loi attache à ces testaments des effets juridiques. Et lorsqu'on ne les respecte pas, on peut recourir à la justice qui peut imposer des forces son application.
Vous avez répondu à cette question-là. Et le pasteur Mondila de Pissiro attend également une réponse de vous, maître, parce que sa question est aussi pertinente. Il dit, faut-il rendre son testament public avant sa mort ou il faut le garder secret?
Bon, ça dépend d'une personne à une autre. Cela peut peut-être aussi susciter des jalousies entre les différents légataires, entre les différentes personnes. Mais on peut quand même se confier à une personne pour dire que bon, j'ai établi un testament que je garde en tel endroit. Après ma mort, vous vérifierez à tel endroit et vous le trouverez pour éviter que le testament ne soit pas retrouvé et qu'on ne puisse pas exécuter les dernières volontés.
C'est ça, mais je sais que dans bien des cas, le défunt peut aussi dire comme ça à la belle famille, donc à sa famille en fait, ce qui n'a koufi botumisaba n'angaite parce que la salle qui n'avait un testament n'angaite donc botumisaba n'angaite.
Oui,
il faut le dire aussi.
Et donc... Effectivement, on rencontre des cas comme ça, des gens qui les disent.
De façon à prévenir ceux qui voudraient...
De façon claire, et il les dit régulièrement.
Autrement, si je meurs,
voilà.
Il ne faudrait pas embêter ma famille.
Voilà. Moi,
je connais
personnellement quelqu'un qui les dit qui régulièrement, même dans des causeries, même à l'occasion des fêtes, quand il peut les dire, même en présence de ses membres de famille. Il y a des gens qui les disent.
Mais il faut être précis encore, parce que Lucien David, depuis que Colésie réagit, nous dit, quelles sont les précautions en cas du décès du père lorsque les membres de ces derniers ne reconnaissent pas le testament?
La précaution, c'est de s'adresser à la justice pour que la justice s'impose, parce que la justice s'impose à tous. Nul ne peut se considérer être supérieur à la loi. Donc la justice vient ou la justice
donc,
intervient pour faire respecter la loi.
Il faut donc recourir au service d'un avocat comme vous?
Bon, en principe, pour être bien guidé dans les méandres de la procédure, c'est mieux de se faire guider ou de se faire assister d'un technicien.
Ok, alors pour terminer, Maître Dominique, pour ceux-là qui ont des problèmes, qui ont eu des problèmes, qui ont eu recours à la justice, mais dans bien des cas, nous disent-ils, la justice ne réagit pas, ne résout pas leurs problèmes. Ces gens-là peuvent passer aujourd'hui au niveau de l'ONG Avocats sans frontières ici pour trouver des solutions à leurs problèmes?
Effectivement, ils peuvent passer à la boutique des droits que nous avons et effectivement, cette boutique des droits est installée pour aider des personnes qui sont dans des situations difficiles ou dans des situations comme celle-là et qui ne savent pas à qui se vouer, qui n'ont pas peut-être des moyens qu'il faut pour payer les honoraires des avocats et faire suivre leur procédure en justice de manière qu'il faut. Ils peuvent s'adresser à la boutique des droits et ils auront des conseils gratuitement et ils seront orientés sur la manière de mener leur démarche et leur dossier.
On reviendra sur l'adresse précise. Juste une dernière question qui est quand même importante, alors je la lis. Je m'excuse d'avance pour tous ceux qui n'ont pas eu, qui n'ont pas vu lire leurs questions à l'antenne, mais on accorde tout de même un peu de place à ce monsieur, notamment Jean-Pierre de Colosi qui dit « Quelle importance accorde le testament dans une société caractérisée par l'oralité et quelle est la meilleure forme du testament ?» nous dit Mambola Cédric depuis Boutembo.
Merci. Moi, je pense que la meilleure forme de testament, c'est le testament authentique parce qu'il y a des garanties de fiabilité et des vérifications. Mm. Même quand il est oral, c'est un testament. Le testament peut même être oral dès lors qu'il a été établi en présence de deux témoins majeurs, comme l'exige la loi. Cela est aussi un testament. Il peut être écrit ou oral.
Mais le testament authentique a plus de valeur.
Voilà, nous souhaitons qu'il soit écrit et qu'il soit authentique pour plus de fiabilité et de garantie.
Quand vous dites authentique, c'est-à-dire légalisé par...
Voilà, établi devant le notaire ou l'officier de l'état civil.
Juste une dernière question, en fait, c'est une précision de votre part, Maître Dominique. Aujourd'hui, toutes ces personnes qui ont des problèmes, on va peut-être se limiter à Kinshasa parce que vous n'avez pas encore de boutique de droit à l'intérieur du pays, hein, si je ne me trompe pas.
On n'en a pas encore, mais on est en train de voir
ça
comment...
Maître Dominique. Les questions viennent de partout. Mais pour Kinshasa, on retient que c'est toujours ici, dans la commune de la Gombe.
La boutique de droit? Oui. Non, la boutique de droit est vraiment au cœur de la ville de Kinshasa, dans la commune de Kasavubu, au croisement des avenues Lukandu et Gambela.
C'est là qu'il
dans
peut...
l'immeuble Max Center. C'est là qu'il y a la boutique de droit. Il y a une permanence des avocates du lundi à vendredi et toute personne peut y aller pour être orienté et avoir des conseils qu'il faut.
Et surtout que vos services sont gratuits.
Les services sont gratuits.
Maître Dominique Kamandou, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes membre de l'ONG Avocats sans frontières. À la prochaine pour un autre sujet, hein, toujours
merci,
en rapport
madame.
Avec le droit.
Up the dark, especially when I'm in a park and there's no one else around. Ooh, I get the shivers. I don't wanna see a ghost. It's the sight that I fear most. I'd rather have a piece of toast. Watch the evening news. Night, oh night, oh night, oh night. Do 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 light, oh night. Oh, life, oh, life. Do-do-do, I'm a superstitious girl. I'm the worst in the world. Never walk under ladders. I keep a rabbit's tail. I'll take you up on a dare. Anytime, anywhere. Name the place, I'll be there. Bungee jumping, I don't care. My, oh, life, oh, life. Oh, life, do, 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 life. Oh, life, oh, life, oh, life. Do, 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 life. Do, 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 do. So after
all said and done, I know I'm not the only one. Life indeed can be fun if you really want to. Sometimes living out your dreams ain't as easy as it seems. You want to.
Beaucoup d'entre vous continuent à réagir, comme Maître Moutéba depuis Kinshasa qui nous dit « La mort comme la naissance sont deux événements naturels. Chacun doit prendre soin de sa succession en rédigeant un testament. » Autre réaction qui nous vient de Colosie, Didier Moisvita, qui dit « Le propriétaire peut-il prescrire par testament des clauses d'inaliénabilité ? Si oui, comment ?» Maître Dominique a répondu à toutes ces questions. Hein, j'espère que vous avez pu être satisfait à travers les réponses qu'il vous a données. Autre réaction toujours des auditeurs que vous êtes. Selon la loi, le législateur déclare qu'après le décès du père, tous les biens doivent appartenir au fils présumé de la famille désignée par ce dernier. Mais en cas de conflit, vous avez dit tout à l'heure, Maître Dominique, dire que les trois quarts des biens laissés par le défunt appartiennent aux enfants, à tous les héritiers, hein, et un quart appartiennent au reste de la famille. Donc, je crois que vous vous retrouvez dans la réponse que Maître Dominique a donnée. Retenez que dans un instant, nous irons où ? Au niveau de la nationale numéro 1 pour aborder avec vous une autre question qui intéresse également vous, auditeurs.
Okapi Action. À la rencontre de toutes les réalités du Congo, des régions et de la capitale. Okapi Action, pour en savoir plus avec nos spécialistes sur les droits humains, la santé, l'éducation, l'agriculture. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions et de vos commentaires. Okapi Action, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa.